cela, quand Hervé Le Bras parlait tout à l'heure de la commission Mazo, de ses conclusions en totale contradiction avec les accords, accords de gestion concertée que Hortefeux est parti conclure au même moment. Moi d'ailleurs, j'ai été auditionnée par la commission Mazo et c'était marrant parce que j'avais l'impression qu'on était dans un jeu de rôle, mais pas très compliqué à décrypter, et que quand même la plupart des gens, de quelque côté qu'on soit, étaient convaincus que de toute façon les réponses elles étaient non, avant même, c'est même pas la peine de se creuser tellement le citron, quoi. Enfin, moi j'avais cette impression. Hein. C'était, voilà, on était dans l'artifice total.
Le forcé de talent.
C'était. Bon, et on savait aussi que les conclusions, probablement, le gouvernement s'asseoirait dessus, et voilà. Bon. Ou en tirerait ce qu'il veut. On est, dans le domaine de la schizophrénie, on a parlé de faux-semblants. C'est un peu comme quand, pour les parlementaires européens, votent à majorité pour la directive retour. Les mêmes qui, trois mois avant, parce que alors, vraiment c'est les spécialistes de la schizophrénie, eux déplorent les conditions de rétention dans les camps à Malte, à Chypre, je ne sais où, parce que quelques petites délégations parlementaires ont été faire des visites et sont revenues effrayées, et pourtant ils n'ont vu que ce qu'on veut bien montrer à des parlementaires en délégation officielle annoncée depuis trois mois. Voilà, mais c'est quand même pour le bien des migrants que les mêmes parlementaires, et ça on l'a entendu en particulier avec des parlementaires français du Parti Socialiste qui défendaient cette position, que c'était quand même pour améliorer la situation qu'il fallait voter cette directive qui va certainement rendre beaucoup plus nombreux les camps qu'ils ont vus. Bon voilà, on est dans ce domaine-là avec ce qui constitue l'actualité, en tout cas institutionnelle, en matière de politique européenne d'immigration aujourd'hui. C'est ce pacte européen sur l'immigration et l'asile que la présidence française va faire adopter par ses partenaires le 15 octobre. Après avoir eu un accord de principe, vous avez dû voir circuler des articles là-dessus au début juillet. Je ne sais pas si vous avez lu le pacte, je vous en parlais un petit peu. Il y a deux façons de lire ce pacte. L'une consiste à ne voir là-dedans que le recyclage et peut-être un peu la mise en ordre, l'organisation de tous les projets en cours, dont certains déjà très avancés, qui fonctionnent, que la Commission européenne impulse depuis déjà pas mal d'années, en gros le début des années 2000. Alors c'est le cas dans toutes les mesures qui concernent le contrôle des frontières, par exemple la généralisation des visas biométriques, c'est déjà prévu, ça se fait, la systématisation de l'enregistrement électronique, vous savez, des entrées et des sorties de tous les étrangers qui franchissent les frontières du territoire européen. Ça a été annoncé par la Commission européenne il y a déjà plusieurs mois, c'est dans le pacte. Le renforcement de l'agence Frontex, cette agence de coordination des contrôles aux frontières. Ben, le Frontex fonctionne, son budget a été doublé l'année dernière, ou doublé ou triplé. Alors le projet de création d'un système de garde-frontières européen, ça aussi c'est dans les tuyaux depuis pas mal de temps. Rien de nouveau non plus dans le domaine de l'asile, où la principale proposition du pacte Hortefeux consiste en un bureau d'appui européen qui était déjà prévu en 2004 dans les conclusions d'un conseil européen qui a mis en place un programme pour 5 ans en matière d'immigration et d'asile. Ce bureau est destiné à faciliter les échanges d'informations sur les situations susceptibles d'être créatrices de flux de réfugiés et à faciliter les échanges entre les administrations qui examinent les demandes d'asile. L'idée, c'est que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il y ait à peu près le même type de traitement des demandes d'asile dans tous les pays de l'Union européenne, puisque la politique commune d'asile, qui est en marche quand même depuis 2002 à peu près, avec toute une série d'instruments juridiques qui ont été adoptés, est un échec total sur le plan de l'harmonisation des pratiques. On a aujourd'hui une diversité incroyable que déplorent d'ailleurs tous les observateurs, aussi bien nationaux qu'européens. Par exemple, la Grèce accorde 1% ou même pas de statut de réfugié, alors que dans d'autres pays, le pourcentage atteint 30 ou 35% sur les mêmes nationalités exactement, hein, alors qu'on est dans un système qui est censé être harmonisé et que, par ailleurs, d'autres mécanismes juridiques qui sont appliqués font semblant de croire que les réfugiés sont traités de la même façon partout, avec un système que ceux d'entre vous qui suivent des dossiers de demandeurs d'asile connaissent, ce mécanisme Dublin qui fait qu'on peut renvoyer quelqu'un qui fait une demande d'asile en France, par exemple le renvoyer en Grèce, en considérant que là, il sera tout aussi bien traité que dans nos préfectures. Le pacte reprend aussi une idée qui a été lancée en 2003 par les Britanniques, qu'on peut résumer en parlant d'externalisation du traitement des demandes d'asile hors des frontières de l'Union européenne, mais avec le soutien logistique et financier de l'Union. Donc on parle de programme de protection régionale. La Commission européenne avait a lancé en 2005 des propositions pour que des régions, c'est-à-dire pas exactement des pays, mais ça peut être des parties de pays ou plusieurs pays, soient des sortes de pôles de protection où les demandeurs d'asile pourraient être envoyés ou retenus plutôt que de venir en Europe et leur demande traitée sur place. Avant que les éventuels réfugiés à l'issue de cette procédure de ce traitement soient admis en Europe, tandis que les autres, les éventuels déboutés, soient renvoyés aux bons soins des pays, des régions dans lesquelles on les laisse. Et alors les pays, ces régions, c'est par exemple l'Ukraine, la Biélorussie, il y a quelques pays de l'Est de l'Afrique, où dans l'ensemble, soit il y a déjà énormément de réfugiés, c'est le cas de la Tanzanie par exemple, qui est un des pays où il y a une concentration de réfugiés, une des plus importantes du monde, avec des camps du HCR qui empêchent d'ailleurs les réfugiés de sortir de ces zones, ou alors des pays où on est non seulement pas certain que l'intégrité et la protection des réfugiés seraient assurées, des demandeurs d'asile, mais qu'on est même quasiment persuadé du contraire. C'est le cas en Ukraine, par exemple, où des rapports d'organisations internationales montrent que les demandeurs d'asile, et en général d'ailleurs les étrangers, mais surtout les demandeurs d'asile africains, sont victimes d'un racisme exacerbé et ne sont pas protégés par les autorités par rapport à ces attaques racistes. Donc voilà, c'est dans ces pays-là que la Commission européenne, depuis pas mal de temps déjà, essaye de promouvoir des zones qui seraient des zones de protection pour les demandeurs d'asile, ce qui éviterait qu'ils viennent s'incruster dans les pays de l'Union européenne, parce que vous savez, l'ennui avec un demandeur d'asile, c'est que quand il est débouté, il ne repart pas, il vient sans papier. Pas d'innovation non plus avec le volet qui traite du partenariat, mais ça j'y reviendrai un peu à la fin, partenariat avec les pays d'origine et les pays de transit des migrants. C'est un volet de la politique européenne d'immigration qui prévoit d'associer étroitement ces pays, avec la méthode de la carotte et du bâton d'ailleurs, à la politique migratoire européenne. Par exemple, en concluant avec eux des accords de réadmission. Vous savez, c'est des accords qui obligent les pays avec lesquels on traite, on les signe, à récupérer tous les migrants en situation irrégulière qui sont originaires, soit originaires du pays qui a signé l'accord de réadmission, soit originaires de n'importe quel autre pays, mais qui ont transité par le pays qui a signé l'accord de réadmission. C'est des accords qui sont très pratiques pour les pays européens parce qu'ils évitent, disons, ils facilitent ces formalités dont Damien Dublik a parlé tout à l'heure, négociation avec le consulat pour qu'il donne des laissez-passer et tout ça. Tout ça est supposé déjà acquis à partir du moment où il y a l'accord de réadmission qui est signé. C'est des accords qui existent de longue date déjà. Ça s'est multiplié au cours des dernières années, notamment entre les pays du sud de l'Europe, et leurs proches voisins africains. Par exemple, l'Espagne a signé toute une série d'accords de réadmission ces dernières années avec les pays d'Afrique occidentale. Ils sont désormais presque toujours associés à des accords de coopération financière ou de quotas, d'admission de quotas d'étrangers, de travailleurs étrangers. Donc voilà, une politique du donnant-donnant très nette. Tu reprends tes migrants clandestins et moi je te prends quelques travailleurs dans le cadre des quotas annuels. Je reviendrai à cette question si j'ai le temps. Pour le reste, le pacte européen consiste surtout en une série d'intentions bienveillantes. Il y a beaucoup de blabla. Alors par exemple, maintenir un niveau de protection élevé pour les réfugiés, inviter les États à la plus grande fermeté contre les personnes qui exploitent les étrangers en situation irrégulière, promouvoir les échanges d'informations relatives aux bonnes pratiques en matière d'accueil et d'intégration, veiller à ce que les politiques migratoires n'encouragent pas la fuite des cerveaux. Tout ça, ça ne mange pas de pain, d'une part, et d'autre part, ça reprend des recommandations qui figurent rituellement dans tous les textes programmatiques des institutions européennes depuis la fin des années 90. Bref, rien de nouveau sous le soleil dans le pacte, en tout cas rien qui justifie les propos de Jean-Christophe Ruffin, qui est ambassadeur de France au Sénégal, et qui a expliqué en juillet dernier aux Sénégalais qu'avec le pacte, rien ne serait plus jamais comme avant. C'est possible d'ailleurs, mais... Alors, l'autre façon de lire le pacte, c'est d'y voir la volonté de la France de faire endosser par l'Union européenne ses fantasmes en matière d'immigration. On y retrouve tous les thèmes fétiches du gouvernement français, dont plusieurs ont été largement utilisés pendant la campagne du candidat Sarkozy à la présidentielle. Immigration choisie contre immigration subie. Imposition de critères d'intégration pour les familles, l'admission des familles. Alors c'est une adaptation du concept d'intégration républicaine, parce qu'on ne peut pas parler de républicain, on est en Europe. Respect des identités des États membres et de l'Union européenne, ça c'est une adaptation du concept d'intégration d'identité nationale. Refus des régularisations générales. La formule, c'est générale, c'est le fruit d'un compromis avec les Espagnols qui ne voulaient pas du tout qu'on pose de principe d'interdiction des régularisations. Promotion des opérations dites de co-développement. Je manquerai de temps pour le faire ici, mais on pourrait commenter longuement l'utilisation détournée de ce terme de co-développement pour désigner en fait la collaboration forcée des pays des migrations à la politique migratoire de l'Europe. Hein ? En réalité, le pacte, c'est à la fois l'une et l'autre vision, c'est-à-dire à la fois la compilation de tout ce qui existe déjà enrobé dans une sauce idéologico-morale qui tente de donner à cet ensemble une cohérence qui est vraiment pas du tout évidente. Alors pourquoi c'est pas cohérent ? Parce que c'est plein de contradictions, pour pas dire plein de mensonges, quoi. Voilà. Comment on peut faire croire que la priorité c'est la lutte contre l'immigration illégale et ceux qui en profitent, les vilains passeurs, les vilains trafiquants, quand dans le même temps, on voit bien que le prix du franchissement illégal des frontières et donc l'enrichissement des passeurs augmente à la mesure du renforcement des dispositifs de contrôle. Comment est-ce qu'on peut prétendre que les mesures de protection des frontières ont pour but de préserver les vies humaines ? On l'entend, on le lit dans le pacte. Alors que la sophistication des contrôles oblige les migrants à emprunter des routes qui sont toujours plus dangereuses, toujours plus meurtrières. Par exemple, à la fin 2007, le ministre espagnol de l'Intérieur se félicitait que grâce aux opérations d'interception maritime effectuées dans le cadre de Frontex, les cayucos, là, ces bateaux qui traversent depuis l'Afrique jusqu'aux Canaries, les arrivées de cayucos avaient baissé de 70%. Au cours de la même période exactement, le nombre de cadavres retrouvés par les autorités espagnoles avait augmenté de 50%. Donc voilà, 70% de moins de bateaux, 50% de plus de morts. Le calcul, il est assez facile à faire. On voit bien que Frontex a moins pour effet de dissuader les départs qu'à rendre la traversée beaucoup plus dangereuse et à faire qu'il y a beaucoup plus de cadavres qu'on retrouve. Et je ne parle que de ceux qu'on retrouve. Comment croire que l'Europe s'efforce de favoriser l'intégration des immigrés quand elle a été incapable, après 4 ans de discussion, de concrétiser un projet de la Commission européenne de créer un statut de résident de longue durée, résident étranger de longue durée, qui donne à ces étrangers dont on considérait qu'ils avaient suffisamment donné de garanties d'intégration, de leur octroyer des droits en matière de mobilité à peu près équivalents à ceux des citoyens européens, c'est-à-dire la possibilité d'aller travailler dans un autre pays que celui où ils avaient un titre de séjour. Il y a eu des discussions, ça c'était la proposition de départ, et finalement, après 3-4 ans de discussion, on est arrivé à un système où le résident qui est là depuis longtemps et qui a ce statut de résident de longue durée, ça s'appelle comme ça, résident étranger, en France, pourra aller travailler en Belgique, mais à condition que le marché de l'emploi belge le permette. C'est-à-dire qu'on est exactement à la case départ et que quelqu'un qui aura vécu 20 ans comme étranger résident en Allemagne ne pourra venir en France que si ici la direction de l'emploi l'autorise, comme s'il était primo-migrant. Comment croire que l'Union européenne défend le droit des personnes persécutées à trouver une protection, comme le prévoit la Convention de Genève sur les réfugiés que tous les pays de l'Union européenne ont signé, quand l'Europe s'est employée depuis 5 ans à mettre en place un ensemble de normes qui encadrent toute la procédure d'asile et l'accueil des réfugiés, etc. Enfin, alors que sur la même période, 2001-2006, les chiffres officiels du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés enregistrent une chute de 50% du nombre de demandeurs d'asile aux frontières de l'Union européenne. Un chiffre d'ailleurs dont se félicitent les autorités de l'Union européenne et dont Hortefeux disait il y a peu de temps qu'on avait enfin réussi à baisser, même si on reste encore les meilleurs en Europe, ce qui est un mensonge puisqu'il compare des nombres absolus et pas par rapport à la proportion et pas en proportion du nombre d'habitants dans le pays. Cette chute drastique de 50% du nombre de demandeurs d'asile dans les pays de l'Union européenne, elle est d'ailleurs à l'image de ce qui se passe dans tous les pays industrialisés. C'est-à-dire que plus ça va mal éventuellement dans le monde, ou indépendamment de ce qui se passe dans le monde, de toute façon, l'objectif, c'est de faire du chiffre et c'est de faire baisser le nombre de demandeurs d'asile. Et là, c'est bien. Là, on est content. On est arrivé à des bons résultats. Comment croire enfin à une politique organisée, maîtrisée de gestion des flux migratoires qui vise, comme il est affirmé dans le pacte, à éviter la redoutable fuite des cerveaux, quand dans le même temps on met en place une carte bleue européenne qui est équivalente ou qui veut s'aligner sur la carte verte des États-Unis, qui est destinée non seulement à attirer les étrangers hautement qualifiés, la base de critères de diplôme, de niveau de qualification, de salaire, etc. Mais aussi, et c'est inscrit dans le projet, à les faire rester. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pour éviter la fuite des cerveaux, c'est tout le contraire. Mais ce n'est pas grave, on dit les deux. On dit qu'il faut éviter la fuite des cerveaux, et puis on va mettre en place la carte bleue, parce que, au nom de la compétitivité, parce que sinon les Américains et les Canadiens vont nous les piquer, les meilleurs, comme ils le font d'ailleurs depuis 50 ans. Donc on est dans une totale contradiction que masque à peine la prose officielle. Je veux dire, vous passez d'un paragraphe à l'autre et vous voyez la contradiction, mais c'est pas grave, on y va, de toute façon ça passe très bien. C'est une espèce de matraquage qui visiblement convainc l'opinion, puisque tout le monde se félicite de ce pacte européen. On pourrait continuer à l'énumération des contradictions, mais je voudrais attirer votre attention sur la façon dont tout ça est vendu à l'opinion publique. Tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de l'approche globale des migrations. Et alors, l'approche globale des migrations, il faut que vous vous souveniez que c'est quelque chose qui permet d'assurer que les questions migratoires ne doivent pas être isolées du reste et qu'elles font partie intégrante des relations extérieures de l'Union, et qu'une gestion harmonieuse des migrations doit être globale. Et donc elle doit traiter à la fois de l'organisation de la migration légale et de la lutte contre l'immigration illégale en partenariat étroit avec les pays d'origine, avec les pays de transit et les pays de destination. Donc vous voyez, les trois ce partenariat, c'est à la fois nous, pays d'arrivée, destination, et puis eux, pays de départ et pays de transit. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce partenariat avec les pays d'origine et les pays de transit, il est inscrit dans un pacte. Mais ce pacte, lui, il n'engage que les pays européens, que les pays de l'Union européenne. Vous savez que Hortefeux a fait une tournée en Europe pour aller vendre son pacte. Il a été voir tous les ministres de l'immigration des 26 autres États membres de l'Union européenne pendant plusieurs mois pour convaincre et pour négocier. Dans certains cas, c'est passé très bien. Dans d'autres fois, comme je parlais de l'Espagne, il y a eu quelques autres cas, Malte. Bon, il a fallu faire quelques concessions. Il y a eu 4 ou 5 versions, en tout cas connues, du pacte, où on voit ces modifications. Et puis après cette tournée en Europe, il est allé faire une tournée en Afrique. Et là, c'était pour expliquer. Pour leur expliquer comme c'était bien, comme ça allait être chouette, et voilà. Je vous passe les extraits de déclarations, c'est hallucinant la façon dont il a expliqué aux bons Africains que ça allait être bien pour eux. Si j'insiste sur cet aspect, c'est qu'il me semble que, au-delà de ce qui nous semble, ce qui nous mobilise ici, les reconduites, les expulsions, les séparations de famille, ce qui se passe dans les centres de rétention, l'enfermement, etc., contre lequel nous sommes un certain nombre, pas énormément, mais enfin bon, à vouloir organiser cette résistance, il nous faut aussi être très vigilants sur ce qu'on voit moins, c'est-à-dire l'exportation et la sous-traitance contrainte, souvent, la plupart du temps, contrainte de la politique migratoire de l'Europe à des partenaires qui n'ont pas toujours le choix de faire autre chose que de s'aligner sur ce que veut l'Union européenne, là, ce que veut Hortefeux. Je voudrais juste vous lire un petit extrait de ce qu'a dit Hortefeux quand il est allé au Cap-Vert, c'était au mois de juin. Il est allé donc dans sa tournée là sur le pacte, puis il leur a aussi parlé de l'ADN parce qu'il leur a expliqué aux Cap-Verdiens que ce pays serait l'une des terres d'application des tests ADN pour les candidats au regroupement familial. Donc il y a eu un papier dans Le Monde, j'étais pas, qui dit que les autorités capverdiennes ont pris note de cette démarche de consultation, mais ont choisi de ne pas commenter ce qu'ils considèrent comme une décision unilatérale de la France. Point. Et Hortefeux, lui, a donné une conférence de presse et il a dit « Notre nouvelle politique d'immigration est comprise et partagée par nos amis africains ». Voilà. Donc voilà ce que c'est que la sous-traitance, ce que j'appelle la sous-traitance contrainte de la politique d'immigration. C'est d'un côté, on a des gens qui se taisent, au mieux, qui sont actifs pour exécuter, au pire, et de l'autre, des gens qui imposent. Et voilà, c'est ça le principal objectif du volet partenariat du pacte européen sur l'immigration et l'asile. Et les conséquences, on les connaît, elles sont déjà, elles existent déjà, c'est bloquer les demandeurs d'asile dans des pays où ils ne sont pas protégés, inciter au développement de camps de rétention externalisés, où il n'y a pas la CIMAD dedans, en Libye, en Mauritanie, en Algérie maintenant, vous le savez. Vous disiez tout à l'heure, on ne voit plus aujourd'hui des pogroms comme on a subi les Italiens au début du siècle. Non, ils ne sont pas là, mais ils sont en Libye, ils sont en Algérie. Aujourd'hui, en Algérie, il y a des pogroms où les Africains sont matraqués et envoyés et renvoyés de l'autre côté de la frontière, dans le désert. Voilà. Et c'est empêcher aussi, surtout, peut-être, les gens de partir de chez eux. On parlait tout à l'heure de liberté de circulation. Il y a un concept qui est ressorti il y a assez peu de temps, sous la pression de l'Union européenne, c'est le concept d'émigration illégale, qui fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, en Algérie, au Maroc, en Libye, la loi interdit, fait un délit du fait de sortir du pays, de franchir la frontière pour partir. Voilà. Je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Je reviendrai peut-être sur la résistance et l'autre peut-être actualité européenne, c'est-à-dire celle des militants. Voilà. Je vais d'abord passer la parole à Antoine.
Oui, puis dans le débat. Voilà. Oui, bien sûr.